Le journal avec Bonaventure Ngumba Katikiro. Bonsoir Bonaventure.
Bonsoir Christ Chanel Demango, bonsoir à tous. À la une, le procès de Ndele 1 a repris aujourd'hui devant la Cour pénale spéciale à Bangui. Il avait été suspendu en raison de la grève des avocats. Un calme règne au village Kadiama, proche de Markunda dans l'Ouam Fafa, après l'attaque d'une position de l'armée nationale par des rebelles de la CPC hier. L'armée contrôle la localité et certains déplacés regagnent progressivement leur domicile. Dans la Sangambaéré, la délinquance juvénile et l'exploitation des enfants deviennent de plus en plus inquiétantes à Nola. Certains parents semblent dépassés par l'impact de cette pratique sur leurs enfants. Football à l'international, on connaîtra ce soir les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue européenne des champions. FC Barcelone affronte Paris Saint-Germain et Borussia Dortmund s'oppose à Atlético de Madrid.
Bonaventure, le procès de Ndele 1 a repris aujourd'hui à Bangui devant la Cour pénale spéciale.
Ceci après plus de deux mois de suspension. Sur 10 accusés dans ce procès 1, seulement 4 sont devant la barre. Il s'agit de Azor Khalid, Chafardine Moussa, Antar Hamat et Wojo Nodroba Omar Oscar. L'audience de la journée a été largement consacrée à la lecture des procès-verbaux des témoins absents. Compte rendu de Parfait Teddy Comessé.
Ce sont les procès-verbaux de 8 témoins qui sont lus pendant l'audience de ce mardi. Tous affirment qu'il y a eu de conflits ethniques entre les factions Goula et Runga du FPRC, rébellion qui contrôlait la ville de Ndele et ses environs. Il y a eu 3 attaques selon certains témoins, 6 selon d'autres, dont 3 menées par les Goula, 3 autres menées par les Runga et leurs alliés. En ce qui concerne les auteurs de ces attaques, plusieurs noms apparaissent dans les dépositions de ces témoins présentés par l'accusation. Le témoin N32 indique par exemple que Azor Khalid était le chef des Goulas. Selon lui, Azor Khalid n'avait pas participé aux deux premiers combats les 6 et 11 mars 2020, mais a organisé et participé à la dernière attaque de Ndele, celle du 29 avril 2020. Le témoin N36, élève pendant l'événement de 2020 à Ndele, précise que la faction Runga du FPRC était dirigée par Abdel Aziz, le nommé Hassan, chef d'état-major du FPRC à Ndele et à Bakar Bele. Du côté Goula, il cite Ataïr, Idriss, Lolo, Ramadan et Général Fachère, ce dernier est poursuivi mais absent devant la barre. Le témoin M41, qui indique avoir participé à l'enterrement de 29 corps sans vie dans une fosse commune, cite Youssouf, ex-combattant du FPRC à Ndele, comme leader de l'attaque du 6 mars 2020. Selon le chronogramme du procès, la lecture des dépositions des témoins pourra prendre plus de 2 semaines. Dans l'agenda des activités de cette semaine, la CPS entend auditionner 2 membres du gouvernement jeudi et un témoin contextuel Abdoulaye Hissène ce mercredi. Abdoulaye Hissène, arrêté aussi en lien avec les événements de Ndele, est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il pourra comparaître dans l'affaire Ndele 2.
C'était un papier signé par Teddy Comessé.
Un calme précaire règne en ce moment au village Kadiama, situé à 37 km de Markunda dans l'Ouam Fafa.
Accalmie retrouvée après l'attaque d'une position des forces armées centrafricaines hier par des rebelles de la CPC. Selon des sources locales, le bilan de cette attaque fait état de 3 morts, dont 2 militaires et un civil. Certains habitants qui ont trouvé refuge en brousse commencent à regagner leur domicile et les FACA continuent de patrouiller dans la localité. Achimène Seleman, sous-préfet de Markunda, a été joint par Edaloutine Diko.
Hier, aux environs de 5h30, les éléments de CPC étaient venus attaquer la base de FACA. Et puis, il y avait vraiment une forte résistance de la part de nos frères FACA. Ils ont réussi à faire partir les assaillants. Et à l'issue de cette attaque, nous avions déploré 2 cas de décès dans les rangs de FACA et plus un civil. Quelques dizaines de maisons ont été incendiées. Les assaillants ont utilisé des armes lourdes. Et bon, c'est ça qui a fait qu'il y a aussi le vent qui soufflait. C'est à l'issue de ça que ces maisons ont été incendiées. Depuis hier, le village est contrôlé par nos frères FACA. À l'heure où je vous parle, ils sont dans le village et ils continuent à faire leur patrouille au-delà même du village, prévision de la sécurité. Le calme et le chef de groupe est revenu avec quelques rares de la population dans le village.
Dans la Haute-Côte, la campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée avec le COVID-19 va démarrer en retard dans les sous-préfectures de Wada, Yalinga, Wandiakoto, encore appelé Sam Wandia.
Le chef du district sanitaire de la Haute-Côte, Nestor Donatien Aho, justifie tout ce retard par un manque de moyens logistiques pour certaines localités et l'insécurité grandissante ces derniers temps sur l'axe Wada. Il est avec Gasmala Mustapha, notre correspondant à Bria.
Toute la Haute-Côte doit faire cette campagne. Pour les périphéries de Bria, ils auront un petit retard. Ils vont commencer. Yalinga aussi va commencer dans 2 jours. Mais la difficulté, c'est au niveau de Wada, parce que ce dernier-ci, il y a 2-3 jours, on a écouté qu'il y a insécurité sur l'axe. Il y a les groupes armés qui sont sortis là, et puis voilà. Donc ça fait que c'est difficile pour nous d'envoyer les vaccins et les superviseurs pour aller vacciner. Mais on va patienter un peu. On est en train de voir avec la CDH pour essayer de discuter avec ces groupes armés afin de laisser libre la circulation au personnel de santé pour aller vacciner à Wada. Et pour Samwandia, Wandiakoto, nous allons voir avec la MINUSCA pour que s'il y a un vol pour Wandiakoto, on va leur envoyer les vaccins. Comme ça, le médecin qui est sur place là-bas va former les gens et faire la vaccination.
Vous êtes toujours branché sur les 100.9 FM à Sangambaïré, la déliquescence juvénile et l'exploitation des enfants dont les activités lucratives prennent de l'ampleur dans la ville de Nola.
Certains parents semblent ne plus avoir la maîtrise de leurs enfants, ce qui engendre des conséquences néfastes sur leur comportement au sein de la société. Correspondance de Firme Bengue Milao.
Chaque jour, des centaines de mineurs en âge d'escolarisation prennent d'assaut les quartiers Asanga, Tanga 1, Batali pour se livrer aux jeux d'argent, comme la carte, ficelle élastique et ludo. Selon certaines sources, cette situation augmente le taux de déperdition scolaire dans la ville. Pasteur Albert Ginelungwandi du temple Béoko tire la sonnette d'alarme.
On ne respecte plus les parcelles de Dieu, l'endroit où c'est un milieu très exceptionnel qui devait vraiment bénéficier de respect des gens. Mais on voit que ce milieu est transformé en un milieu de banditisme où les gens jouent aux cartes et n'importe quoi et ils échappent au contrôle de leurs parents. Je me pose la question, si ces mineurs-là, en quittant la maison, est-ce que leurs parents cherchent au moins à savoir là où ils sont?
La consommation des stupéfiants, de cannabis et autres substances nuisibles est au rendez-vous. Les parents d'élèves craignent la répercussion de ce phénomène sur la société. Bonaventure Gouba, chef de quartier.
Nous, les chefs de village, chefs de quartier et chefs de groupe, on est obligés d'en parler. Mais jusqu'ici, on n'a pas encore eu solution. On demande une renfort gouvernemental pour la sécurité de la ville afin d'arrêter cette fléau parce que ça risquerait de détourner notre pays, la République centrafricaine.
Selon la population locale, la répression du banditisme n'est plus visible dans Nola comme dans le passé. Une occasion favorable à la prolifération de ces jeux jugés dangereux pour la société. Gérard Koulindiewa, président préfectoral de suivi des droits de l'enfant, alerte sur la violation du code de protection de l'enfant.
Nous avons le droit à l'éducation, article 37 de ce code. Le devoir de l'enfant, parents et État, article 43. Contrairement aux autres textes, les devoirs de l'enfant sont clairement définis dans ce code. Nous avons, entre autres, les devoirs de respecter ses parents, respecter les biens publics, aller à l'école.
Contacté, le commissaire de police de Nola promet une réaction pour lutter contre ce phénomène. Nola paie le prix de la crise sécuritaire à l'origine de la dépravation des mœurs dans la localité. Firmé, Bengi Milao, Nola, Radio Ndekeluka.
Bonaventure, le président Foster Konch Touadéra entend faire développer la République centrafricaine à travers le changement de mentalité.
C'est pour cette raison, Christ Chanel, qu'une formation sur le changement de mentalité se déroule depuis hier à la présidence de la République à Bangui. Les précisions de Léo Papi Benam.
Entreprendre le changement par des exemples des pays comme la Corée du Sud ou encore l'Allemagne en adoptant le changement de mentalité, telle est l'approche privilégiée par ce projet du président de la République. Le changement de mentalité est une ressource nécessaire pour un pays, selon le révérend Jean Lee, un des formateurs.
Et ça donne un changement partout, la domaine. C'est pour ça, c'est le coût des changements mentaux, c'est très important. Depuis longtemps, on est aussi en train de discuter pour présenter le coût des changements mentaux avec le nom de IOF, état des RCA aussi. il a besoin, il est pratique pour sentir aujourd'hui le jour arrivé pour commencer le cours des changements mentaux selon manuel. C'est pour ça, ça va et on commence maintenant.
L'idée est de faire que chaque Centrafricain soit acteur de changement à travers son action au quotidien. Une approche saluée par Béatrice Abézois, présidente de l'Amicale du personnel administratif du Palais de la Renaissance.
C'est un plus, ça nous forme. C'est sur le cœur, le changement de comportement, changement de mentalité. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si on a un projet, il faut être vraiment convaincu qu'on va aboutir, on va atteindre ce projet-là. C'est une formation très, très importante.
Cette initiative ne se limitera pas qu'à la présidence de la République. Le ministre conseiller Karl Yoki précise les prochaines étapes.
On va commencer la formation au sein du cabinet de la présidence et les personnels de la présidence. Et après, on va essayer de prolonger ça à la primature, l'Assemblée nationale et dans tous les ministères. Et quand on aura fini ici à Bangui, on va effectivement commencer de lancer cette formation à travers les 20 préfectures de la République centrafricaine.
Cette formation va durer 4 jours. Elle est assurée par International Youth Fellowship et des cadres centrafricains.
Ouverture hier à Bangui de la 3e édition de la foire apicole.
Durant 6 jours, les apiculteurs de Bangui et des régions exposent leur miel au stade municipal. Une initiative du ministère de l'Élevage en partenariat avec les ONG WHH, Triangle et le projet PRAPAM. Edaloutine Diko y a pris part.
Sous des stands, des producteurs de miel étalent d'épuisir leurs produits. Ils se sont installés chacun derrière la banderole qui indique sa préfecture. Pour Dr Patrick Ningatanjikta, directeur de cabinet au ministère de l'Élevage, l'heure est à la consommation locale pour valoriser le miel centrafricain.
Nous sommes premier pays producteur du miel en Afrique centrale, 5e producteur du miel en Afrique et 27e sur le plan mondial. Donc cette place qui est donnée à notre pays est tenue par la qualité de notre miel. Mais malheureusement, le secteur n'est pas organisé. Nous cherchons par cette foire-là la restructuration de cette filière pour que les consommateurs savent que nous avons du miel de qualité et avec les maladies qui se trouvent chez les humains, si nous consommons du miel à la place du sucre, nous allons voir que ces problèmes de santé-là seront résolus.
Il n'y a pas que du miel qui est exposé, mais aussi des produits qui en sont dérivés. Devant ce stand des transformateurs des produits dérivés du miel, on voit des savons, crèmes et des produits alimentaires. Charlotte Danouane, directrice générale de l'entreprise Révélation de Gloria, vend du miel et plusieurs produits dérivés.
J'ai le miel, j'ai l'huile de sésame, j'ai aussi l'huile de karité, j'ai ici la croquette d'igname à base de miel, des croquettes de patates douces à base de miel, donc tout est à base de miel sur mon stand. Je trouve que c'est bien, c'est une très bonne chose parce qu'on a trop de miel chez nous, mais nos miels ne sont pas valorisés. Cette fois, je pense que ça donnera l'occasion à des partenaires et aussi à ceux qui produisent du miel de valoriser et aussi exporter notre miel.
La 3e édition de cette foire apicole ouverte ce lundi prendra fin samedi. Selon le ministère de l'Élevage, depuis 2021, la production du miel en RCA varie entre 23 et 24 000 tonnes par année.
Football à l'international, les matchs retour des quarts de finale de la Ligue européenne des champions démarrent ce soir.
Demain, ce sera les matchs retour entre Manchester City et Real Madrid. Les deux équipes ont fait match nul, 3 buts partout au match aller. L'autre rencontre opposera Bayern Munich à Arsenal. Eux aussi s'étaient séparés sur un score de parité, 2 buts partout la semaine dernière au match aller.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Iriti Doneng, a fait aujourd'hui son bilan après un peu plus de 3 mois à la tête de ce département.
Devant les journalistes, il a mentionné qu'il y a des avancées significatives sur le plan sportif, même si des défis restent à relever. Par ailleurs, il a mis un accent particulier sur le développement des infrastructures sportives. Nous l'écoutons au micro de Théoneste Punika.
Appelé au gouvernement depuis le 4 janvier 2024. Aujourd'hui, ça fait 100 jours. En prenant service, je me suis quelques priorités après les états des lieux des secteurs de la jeunesse et des sports qui souffrent tout d'abord d'un problème d'infrastructure, une collaboration avec les fédérations sportives parce qu'à un moment donné, il y avait une crise entre le département et les fédérations sportives. J'ai appelé à l'unité, au travail, à la solidarité, au patriotisme. Nous avons mis en place un cadre de partenariat, de collaboration avec les fédérations sportives, le comité national olympique pour réfléchir à chaque fois sur des problématiques au développement des sports. Comme je l'ai dit, on ne pourra jamais développer le sport transport sans infrastructure. Il faut avoir les infrastructures. J'avais lancé les travaux d'aménagement partiel des infrastructures sportives dans la ville de Bangui et certaines localités près de la ville de Bangui. Alors on avait commencé à l'Institut national de la jeunesse et des sports qui est pour moi le socle de l'intelligence sportive. Il nous faut avoir des compétences nécessaires pour notre sport. Nous avons réhabilité aussi le terrain de Nangui dans le 5e arrondissement. Nous avons réhabité le terrain Koudoukou. J'ai lancé hier les travaux de réhabilitation du complexe sportif Batemi Boganda. En un laps de temps, vous avez vu que au dernier Jeux africains Dakar, nous avons quitté notre dernier rang pour être aujourd'hui 24e sur 54 nations. Au de football, nous avons quitté de 133e aujourd'hui à 129e.
Merci pour votre fidélité d'écoute à Radio Ndekeluka. Portez-vous bien.